Bonsoir mes frères et sœurs, mes amis. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez chanté? Hein? Dieu sait ce qu'il nous faut. Alors je vais commencer en vous posant une question. Vous avez vu un jour les apôtres qui ont dit à Jésus, une fois qu'il avait prié, ils avaient été touchés par sa façon de prier. Donc, ils ont dit « Enseigne-nous à prier ». Ils n'ont pas dit « Enseigne-nous une prière ». Ils ont dit « Enseigne-nous à prier ». Et Jésus va leur enseigner ce qu'on appelle le canevas du Notre Père. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans le Notre Père? Une parole, par exemple, ce soir, qui peut vous revenir à l'esprit et qui vous a touché par rapport à une expérience que vous avez pu faire? Par exemple, que ton règne vienne. Est-ce que les milliards de gens qui récitent cette prière tous les jours réalisent qu'ils demandent à Dieu de venir régner sur la terre? Est-ce que vous pensez que les gens le réalisent? Que ton règne vienne. Ça veut dire que les gens demandent à Jésus de venir régner sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans Notre Père, il y a cette parole où Dieu nous demande de prier dans ce sens, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie. Donc, ce soir, je voudrais qu'on partage cet aspect. Mais d'abord, on va lire un ou deux versets. Le premier dans Ésaïe, au chapitre 48, cette notion de comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez la volonté de Dieu? Est-ce que c'est facile de comprendre la volonté de Dieu? Est-ce que c'est toujours facile? Non, des fois c'est compliqué, la volonté de Dieu. Mais il y a des textes qui nous indiquent à saisir sa volonté. Ésaïe 48, il y a un soupir, ce texte commence avec un soupir, « Oh ». Ésaïe 48, verset 18. On voit bien que la volonté de Dieu, c'est que l'on soit dans la paix. Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Un peu avant, dans les psaumes, dans le psaume 19, il y a une notion que j'aimerais relever avec vous ce soir. Psaume 19, verset 9. Que penser des propos du Seigneur, de tous ses commandements? Psaume 19, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils éclairent les yeux. Pour ça, il faut les lire, il faut les découvrir, les commandements. Alors, on va en lire un ce soir. Pour réaliser ce qui se passe quand on dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie. Alors, on va en lire dans 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Beaucoup de gens donc prient que ta volonté soit faite, et en même temps, ils ont un comportement qui est complètement à l'opposé. Vous me suivez? Quand on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, eh bien, il faut qu'on lise la Bible pour savoir, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Alors, il y a des centaines de choses, bien entendu, mais au moins, lisons ce soir ce verset qui m'a préoccupé depuis 2 ou 3 jours. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Vous l'avez certainement déjà lu, mais je l'ai pris parce qu'il souligne bien que c'est la volonté du Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On le relit, s'il vous plaît. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, que vous découvriez l'Évangile, que vous soyez chrétien depuis longtemps, ou que vous reveniez à Dieu, car il y a tout le temps dans une église tous ces cas de figure, normalement, le souci, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi vous êtes là ce soir en fait? Tiens donc, pourquoi vous êtes là? Comment? Oui, c'est sa volonté, c'est clair. Quand on est dans une église à écouter la parole, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pour c'est pour vraiment comprendre la volonté de Dieu. Un chrétien, il veut connaître la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Quelqu'un qui entre dans une église, il ne veut pas dire, tiens, je veux savoir ce qu'est l'église évangélique. Quoi qu'on peut découvrir, vite fait, la doctrine d'une église avec Internet. Voilà, mais la doctrine, oui. Mais à quoi ça sert la doctrine? Si ce n'est à nous amener plus près de la volonté de Dieu. Vous avez vu ce verset? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que c'est facile de rendre grâce? Par contre, vous n'êtes pas obligé de répondre tous en même temps, parce que ça me perturberait un peu. Rendre grâce. Alors, le titre de ma prédication, il n'est pas compliqué, c'est « Rendre grâce ou se plaindre ?» Et vous devez vous identifier dans ce titre, « Rendre grâce ». Ces deux comportements que l'on a, des fois on a les deux, il y en a qui ont plus l'un que l'autre, mais quand même, vous allez me dire, mais c'est un peu simple ça, pour comprendre la volonté de Dieu, rendre grâce ou se plaindre, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus puissant que ce que l'on peut imaginer. Est-ce que vous avez remarqué comment on passe une journée lorsqu'on ne fait que se plaindre? Est-ce que ça vous est arrivé de vous trouver dans un bouchon par exemple? Parce que ça peut arriver à Toulouse, sur la rocade, ça peut arriver de se trouver sur un bouchon. Vous avez remarqué comment il y a des choix qui s'imposent à nous. Hein, où on peut commencer à bisquer, à s'énerver, à râler, ou alors on peut dire, bon, j'accepte, c'est pas la peine, de toute façon, ça change quoi. Ouais. Et l'âme qui rend grâce, hein, parce que c'est ça quand même, il faut comprendre quand Dieu, quand on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, moi ça me fait presque sourire ou pleurer quand je vois des gens qui récitent, pas qui prient. Parce que moi je suis pas contre qu'on prie le Notre Père. Qu'on le prie avec vérité. Je me souviens un jour, il y a une femme qui était docteur, qui est venue à l'église, et elle discutait avec un chrétien qui ergotait un petit peu sur leur façon de s'approcher de Dieu. Et le gars, il lui disait, mais non, vous avez récité toute votre vie le Notre Père, c'est pas bien. Et moi, je me suis approché de cette femme qui était docteur, et je lui dis, mais vous avez récité le Notre Père ou vous avez prié le Notre Père? Elle me dit, mais je ne l'ai pas récité, je l'ai vraiment prié. Et cette femme, cette prière l'a vraiment amenée à Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut réciter bêtement, mécaniquement, religieusement, sans penser ce que l'on fait. Mais cette femme, elle a, et je lui ai dit, mais c'est certainement cette prière qui vous a amené à Jésus-Christ. Et quand, à force de discuter avec elle, je me suis rendu compte que c'était vrai. Vous voyez? Quand elle disait, Seigneur, que ta volonté soit faite, que sur la terre, c'est ce qu'elle voulait vraiment. Elle était jeune, elle avait une trentaine d'années. Mais c'est exactement ce qu'elle a expérimenté. L'âme qui se plaint ne trouve absolument pas de consolation. L'âme qui se plaint devient pénible. Vous êtes déjà trouvé avec quelqu'un qui fait que se plaindre? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, je vais vous présenter des gens et je vais vous demander d'aller passer une semaine avec eux. Et vous allez voir combien... Non, mais en plus, il n'y aura pas de mal à en trouver. Parce que des gens qui se plaignent, il y en a. Et un chrétien qui vit continuellement dans la plainte, il n'a pas compris. Il n'a pas ce souci. Vous voyez, les commandements de l'Éternel, on l'a lu dans le psaume 19, ils sont purs. Ils éclairent les yeux. Et ça peut paraître très, très sommaire, très enfantin, même cette exhortation. Et dire, enfin, je ne vais pas apprendre grand-chose. Oui, j'ai compris, il faut rendre grâce, il faut remercier Dieu en toute chose. Ça fait partie de sa volonté. Ou que je me plains, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Mais si vous voulez être dans la volonté de Dieu, si vous voulez rester dans la volonté, si nous voulons rester dans la volonté de Dieu, moi je vous dis qu'il vaut mieux s'appliquer à accepter avec grâce chacun de ses commandements. Apprendre à rendre grâce. Dieu, il le sait ce qu'il nous faut. Vous croyez, vous, qu'il vous faut ceci ou cela pour être heureux? Alors des fois, c'est vrai, il y a des choses qui nous font du bien, etc., qui correspondent à un certain plaisir. Mais entre certains plaisirs ponctuels qui nous sont accordés et qui ne correspondent pas du tout à la vraie paix que Dieu veut donner, quand Dieu nous dit, voilà, sois attentif à mes commandements, et peut-être que ce soir, quelqu'un a vraiment besoin de réaliser ce souci d'apprendre à rendre grâce. Surtout qu'en France, en plus, moi je trouve qu'on a quand même des raisons de rendre grâce. Vous croyez que c'est dans toutes les églises du monde où il y a la climatisation? Oui ou non? Non, c'est pas dans toutes les églises. Il y a des églises qui ne peuvent même pas se rassembler parce que les chrétiens sont mal aimés. Et il faut comprendre que les choses sont sous le contrôle de Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Jésus l'a expliqué dans plusieurs sermons. Il a dit que pas un oiseau ne tombait sans qu'il ne le veuille. Il y a des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu contrôle tous les détails de notre vie. C'est ça que ça veut dire. Alors il y a des choses, bien sûr, qui pourraient nous pousser à se plaindre, à râler, etc. Prenons une histoire. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? À 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu par ses frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maltraité. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, quand vous lisez, vous dites, bon, mais ça vient. Ça peut que provenir du péché. Oui ou non? De la jalousie? De la haine? De l'orgueil? Et en plus, ils vont faire croire à leur père qu'il a été mangé, tué par une bête féroce, etc. Et pourtant, si Joseph avait su comment l'histoire allait se terminer, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu rendre grâce? Vous savez comment il a terminé, Joseph? Comment il a terminé? Il a été premier ministre en Égypte. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il va dire, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est comme il y a de quoi pleurer d'émerveillement devant de cette longue histoire. Et il va le dire, vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien. Et il faut comprendre une chose, c'est que Dieu il sait ce qu'on doit vivre, ce qu'on doit traverser. Nous, on aimerait que ça se passe comme ça. Moi, je serais heureux si ma vie se déroule ainsi. Il faudrait que mes projets collent avec mes dates. Mais Joseph, il a galéré de 17 ans à 30 ans. 30 ans. C'est vieux 30 ans? Est-ce que c'est vieux 30 ans? Hein, non, c'est jeune, bien sûr. Ouais. Il n'avait que 17 ans, mais il a été intelligent. Et quand vous regardez l'histoire de Joseph, vous voyez quelqu'un qui savait se maintenir dans cette communion avec Dieu à cause de cette attitude de cœur. Et moi, je vous dis, si nous voulons rester dans la volonté de Dieu, nous devons apprendre à rendre grâce et non pas à nous plaindre. C'est absolument important. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul dit sur les chrétiens de la fin des temps? Vous avez vu le descriptif du caractère des chrétiens de la fin des temps, les hommes seront de plus en plus ingrats. Ingrats. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit, 2 Timothée chapitre 3. Ça veut dire quoi? Qu'ils se plaignent, qu'ils ne savent pas remercier. Est-ce que vous savez remercier les gens avec qui vous travaillez, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez remercier? Est-ce que vous remerciez le boulanger pour le pain? Ou est-ce que c'est normal, après tout, vous payez? Est-ce que vous aimez remercier votre professeur de tennis, parce qu'il vous apprend bien à jouer au tennis, par exemple? Est-ce que vous le remerciez? Est-ce que vous savez remercier? Eh oui, mais c'est tout ça. Et quand vous regardez dans la Bible, il est parlé des chrétiens de la fin de temps qui murmurent, qui se plaignent, qui râlent tout le temps. Dans le livre des Nombres, il est dit « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel ». Pourquoi? Pourquoi on voit des moments où ils murmurent, on voit la colère de l'Éternel qui s'enflamme? On dit, attends, mais pour ça? Attends, mais quand on lit la Bible sérieusement, tu te dis, attends, mais la colère de Dieu qui s'enflamme parce qu'il y a eu juste... Eh oui, mais pourquoi? Parce que ça les sortait de la volonté de Dieu. Et nous, on a des trucs sur lesquels on négocie. On dit, bon, c'est pas grave, c'est pas important, ça c'est pas des péchés grossiers. Mes frères et sœurs, quand vous regardez la parole de Dieu, il y a des comportements qui nous sortent de la volonté du Seigneur. Et moi, je vous assure qu'il vaut mieux réfléchir à ces paroles. Relisez l'histoire des Israélites dans le désert et vous verrez que vraiment, ça s'est souvent mal passé à cause du murmure. Alors, on va lire un autre texte. Vous voulez bien? Dans le psaume 69. Pour vous indiquer combien rendre grâce est important. Ou vous rendez grâce juste à table pour le repas. Vous rendez grâce à Dieu pour le repas? Quand vous prenez votre repas, vous dites, Seigneur, merci, vous le faites intérieurement, vous le faites à mi-voix, haute voix, qu'importe. Est-ce que vous remerciez Dieu pour les repas? Voilà, mais on peut remercier, ça peut être très religieux, c'est-à-dire que je le fais à table, mais après je râle parce que les frites n'étaient pas assez salées, je râle parce qu'elles étaient trop froides. Vous voyez, bon, après tout ça, ça peut quand même s'arranger. Hein? Psaume 69. Regardez, dans le psaume 69, vous avez un texte qui est très très fort, 31 et 32. Psaume 69, versets 31 et 32. « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. » Regardez bien la conséquence. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Bon, comment vous le comprenez? Comment vous les comprenez ces versets? Que rendre à Dieu, rendre grâce à Dieu? Alors, ce n'est pas parce qu'on remercie Dieu qu'il faut le faire avec le cœur. Vous comprenez? Mais si on le fait de tout son cœur, en toute chose, ce texte dit que c'est plus agréable qu'un gros sacrifice de temps en temps. Est-ce qu'on peut faire des gros sacrifices à Dieu? Oui, si dimanche, par exemple, je veux donner une grosse somme d'argent, on peut dire, oh, c'était bien. En plus, pour peu que je le dise, vous voyez, ce qui est vraiment pas intelligent et qui n'est pas agréable à Dieu, je peux faire quelque chose de formidable. On va aller à l'église, on va donner 5000 euros pour les chrétiens qui ont besoin de manger au Niger, etc. On peut dire, oh, c'est formidable l'église. Mais un gros sacrifice de temps en temps, c'est une chose, mais rendre continuellement grâce, croyez-moi que c'est autre chose et c'est Dieu qui le dit. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, ne le cherchez pas, il est dit, par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est quoi le culte? Un vrai culte? C'est quoi? C'est la réunion le dimanche matin? Bibliquement, le culte, c'est ça? Ou c'est une vie entière qui rend grâce à Dieu? C'est ça. Et beaucoup de gens, parce qu'on a utilisé des mots pour caler nos réunions, tout ça, c'est bien. Mais en vérité, quand vous regardez dans la parole de Dieu, le culte, c'est quelqu'un qui offre sa vie à Dieu. Et moi, je voudrais que nous comprenions bien ce soir que tout ce que Jésus a fait, c'est merveilleux. Tout ce qu'on a chanté, c'est vraiment bien. La croix, tout ça, il n'y a rien de plus beau que de comprendre ce que Jésus a fait à Golgotha, qu'il a versé son sang pour nos péchés, qu'il n'a rien dit, lui, le Seigneur des Seigneurs. La croix, c'est extraordinaire. Mais la croix doit nous amener justement à cette obéissance. La croix, ce n'est pas juste une expérience. La croix, c'est un état d'esprit. Que ta volonté soit faite. Et je ne veux pas commencer à me verrouiller la vie, à me bloquer la vie, parce que je ne suis pas sérieux avec les commandements du Seigneur. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté du Seigneur. Et on voit dans la parole de Dieu des hommes la situation s'est débloquée quand ils ont rendu gloire à Dieu. Abraham, par exemple, ça s'est débloqué quand il a rendu gloire à Dieu. On pourrait prendre plein d'exemples, le temps va nous manquer, bien entendu. Mais Dieu aime qu'on rende gloire. Vous vous rappelez les 10 lépreux? Les 10 lépreux, ils arrivent vers Jésus, ils savent que Jésus a cette bénédiction sur lui de guérir, et ils crient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de trop s'approcher compte tenu de leur lèpre, et ils crient à Dieu, ils crient au Seigneur, et Jésus leur dit, allez vous montrer au souverain sacrificateur. Et il est dit qu'il arriva que quand ils y allaient, ils furent guéris. Donc ils ont obéi. Ils ont obéi. Et il y en a combien qui sont revenus donner gloire à Dieu? Un. Et là, Jésus se tourne vers les apôtres et dit, mais ne s'est-il retrouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? On voit combien Jésus apprécie cette attitude, parce que l'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est je lui rends, je l'adore pour ce qu'il est. Mais rendre grâce, c'est le remercier pour tout ce qu'il fait. Est-ce que vous croyez que Dieu peut diriger votre vie? Toute votre vie. Même si cette vie est jalonnée de choses que nous ne comprenons pas. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas, envoient tout balader, excusez-moi l'expression. À la place de dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte cette épreuve, comme l'a fait Joseph ou d'autres qu'on pourrait citer, ou Abraham. Et nous ne nous rendons pas compte le mal que nous infligeons aux autres, parce que quand on se plaint, c'est pas agréable. Comment on peut attrister le Seigneur également, parce que ça prouve qu'on ne lui fait pas confiance. C'est pour ça que des gens sont tristes, parce qu'ils s'affligent eux-mêmes cette souffrance en se plaignant. Après, il faut comprendre aussi, est-ce que Job s'est plaint? Prenons le livre, vous avez lu le livre de Job? Est-ce que Job se plaint à des moments? Oui, il se plaint. Est-ce qu'il y avait des raisons? Ben oui. Quand il dit « Mon âme est dégoûtée de la vie bon, », est-ce qu'on peut le juger pour ça? Mais non, le Seigneur ne lui a jamais reproché d'ailleurs. Jamais. Jamais Dieu ne reproche quand on répand son âme devant lui. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais s'il avait compris l'objet de ce combat spirituel qu'il est en train de vivre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comment il aurait pu le vivre différemment. Et c'est pareil pour nous. Tout ce qu'on traverse, on devrait le traverser dans cet état d'esprit. Si nous comprenions que chaque épreuve n'a qu'un but, c'est nous amener plus près du Seigneur. Jonas, je veux pas prendre multiplier les exemples. Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas? C'était un drôle de pasteur, Jonas, hein? Non? Est-ce qu'on pourrait aller voir Jonas dans le ventre du poisson? On s'arrêtera juste au-dessus de l'eau. Hein? Jonas, chapitre 2, il est dans le ventre du poisson, donc ça représente quoi? D'après vous? Ça représente l'épreuve. Ces épreuves pénibles qu'on traverse parfois. Jonas, chapitre 2, verset 2. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Par contre, c'est intéressant de voir ces hommes, parfois, qui nous paraissent un petit peu compliqués. Pourquoi Dieu a choisi Jonas? Mais en fin de compte, on voit ces hommes qui, par exemple, on le voit au verset 3. Jonas, voyez, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, qu'est-ce qu'il fait dans la détresse? J'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Il y a des gens dans la détresse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils envoient tout promener. On voit des hommes dans la prison, je pense, dans la prison Joseph, dans la prison Jérémie, dans le désert David, etc. Ils prient. C'est ce qui détermine justement l'intervention de Dieu. Il faut comprendre, dans la détresse, il dit dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. On ne rend pas grâce à Dieu pour la détresse. On rend grâce à Dieu dans la détresse. On n'est pas maso non plus. Il faut bien comprendre. Seigneur, dans cette affaire, je choisis de te rendre grâce. Si vous lisez comment ils ont rendu grâce dans le livre des Chroniques, c'est impressionnant comment ça fait intervenir Dieu. Mais en fait, ils étaient quand même dans l'obéissance. Alors, je vois que le temps passe. On va quand même lire la prophétie dans Jude. Une prophétie. Parce que quand même, je crois qu'il faut comprendre ces choses. Elles sont beaucoup plus profondes que le titre que je peux énoncer, « Rendre grâce ou se plaindre ». Ça paraît très sommaire, surtout que je le présente en demi-heure. Mais si vous prenez une concordance et que vous relisiez tous les textes bibliques, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Regardez dans la prophétie d'Enoch, Jude. Alors, Jude verset, on va prendre verset 16. Jude verset 16. Lisez bien avec moi. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voyez ? Alors, on lit la suite. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise. Ce sont des hommes provoquant des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Et quand vous regardez bien, vous voyez que Dieu désapprouve cette affaire. Vous voulez que Dieu vous approuve ou vous désapprouve, hein? Est-ce que parce qu'on va à l'église, Dieu nous approuve? Est-ce que c'est notre présence à l'église qui amène l'approbation de Dieu? Que la présence à l'église? Bien sûr, on a besoin d'aller dans une église, c'est évident. Mais ce n'est pas parce que je vais à l'église que j'obéis. Ce n'est pas parce que je chante des cantiques que je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que je prends le dimanche matin le pain et le vin que je suis en communion avec Dieu. Et il n'y a que Dieu qui le voit. Et ces textes nous prouvent, cette dernière prophétie, nous prouve qu'il y a des choses qui n'attirent pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'on veut être béni. Vous voulez la bénédiction? Non? Ben sortez. Vous la voulez ou la voulez pas? Ben on la veut tous la bénédiction. On a besoin de bénédiction. Dieu nous a créés, on a besoin de cette bénédiction. Mais je vais vous donner une lecture à faire. Ce soir ou demain, vous lirez, je l'ai fait tout ce matin, vous lirez les sept derniers psaumes. Vous pourrez le faire, pas compliqué. Les sept derniers psaumes. Et vous regarderez l'importance de la louange dans ces psaumes. Et vous verrez les bénédictions qui se rajoutent à l'homme qui loue dans cet état d'esprit. C'est vraiment impressionnant. Parce qu'il faut comprendre ces choses. Plutôt que de réciter en boucle, que ta volonté soit faite, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. C'est bien. Mais, mes frères et sœurs, soyons attentifs aux commandements. Jésus l'a dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Béni soit Dieu pour son œuvre au calvaire. Béni soit Dieu pour son sang versé. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans le sang de Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, il y a un repos, une bénédiction qui vient lorsqu'on choisit de rendre grâce. Alors c'est un choix qu'on fait. Dieu ne nous force pas. Des fois j'entends les chrétiens qui chantent « Seigneur, règne en moi ». Règne en moi. On a des beaux cantiques. Hein, oui ou non? Vous connaissez le petit cantique « Règne en moi ». Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que Dieu peut régner dans la vie de quelqu'un si la personne elle est tout le temps en train de se plaindre? Vous voyez? Alors c'est une constatation. Mais moi je vous dis, mes frères et sœurs, rendez grâce, rendons grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez, c'est bien. Vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Faites-lui confiance. Surtout si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Surtout si le Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Mais si il y a des gens, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ça fait qu'il y a un malentendu pas possible entre eux et Dieu. Mais lorsque la personne a dit, Seigneur, je t'appartiens, tu es devenu mon Père, Dieu nous autorise à la... Justement, le Notre Père commence par cette faveur extraordinaire. On peut appeler Dieu Notre Père. Quand on a accepté Jésus-Christ, Dieu devient Notre Père. Si vous pouvez appeler Dieu Notre Père, vous pouvez dire, on s'attaque à cette affaire. Oui, je vais être attentif aux commandements. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. C'est sûr que si vous lisez pas la Bible, vous aurez du mal à être éclairé spirituellement. Alors, ne nous résignons pas dans ce monde un peu compliqué, parce que peut-être que vous travaillez avec des gens qui font que se plaindre. Est-ce que ça peut arriver, ça? Les gens avec qui vous travaillez, ils rendent de grâce toujours ou ils se plaignent? Les gens avec qui vous travaillez, Jonathan, ils rendent de grâce ou ils se plaignent? Je me plaigne de mes stagiaires, de mes pasteurs. Non. Eh oui, mais ça détermine la grâce de Dieu. Alors on va demander à Dieu qu'il nous aide. On peut demander à Dieu qu'il nous aide. Eh oui, c'est ça la prière. C'est ça l'Église. Seigneur, aide-moi à ne pas passer à côté de cette faveur. Aide-moi sur la rocade, aux heures de pointe. Aide-moi à rendre grâce. Demandez-lui, on est tous pareils, il ne faut pas rêver. Et puis à des moments, on a des hauts, on a des bas. Mais c'est une prière qu'on peut vraiment faire. Seigneur, aide-moi à être conforme à ta volonté. Est-ce qu'on peut terminer en rendant grâce à Dieu? Hein? Notre Père, notre Dieu, oui, nous voulons être attentifs à tous ces commandements que nous avons souvent négligés, alors que tu dis que tes commandements, ils éclairent nos yeux, que si nous étions attentifs à chacun d'eux, notre bien-être serait comme un fleuve. Tu savais qui viendrait ce soir dans ce lieu, Seigneur, et nous te prions, oui, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre, dans notre vie. Tu vois cette mentalité mauvaise, enténébrée de cette terre, nous choisissons de t'obéir. Et nous te prions de nous garder, Seigneur, les yeux fixés sur toi, afin que, comme Joseph, nous puissions dire à la fin de notre vie que si les hommes avaient médité le mal, toi, tu l'as changé en bien. Seigneur, merci pour cette soirée. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies. Et aide-nous à méditer ta parole. Amen. Amen. On pourrait peut-être